Trouble just to move out on a double, and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
Yeah. Et bien voilà, un petit remix bien sympa pour quasiment conclure cette émission Soul Connection. C'était In Deep avec Last Night DJ Save My Life, qui était remixé avec Aura Baby Love, remix qui date de 2011, signé par Alex Diccio. Avant de se quitter, je vous rappelle quelques rendez-vous en ce qui me concerne sur la radio Principe Actif, notamment le jeudi soir de 18h à 19h pour une heure d'électro avec plein de nouveautés à découvrir. Et puis le samedi soir, 22h, 23h, une heure de mix disco funk. Allez, on se quitte avec cette émission spéciale remix. On se quitte avec Unlimited Touch, un classique de 81, I Heard Music in the Street, remixé par un DJ new-yorkais qui s'appelle Lord Finesse. Ça date de 2025. On se quitte avec ça. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau direct de Soul Connection, avec une émission cette fois-ci un peu plus normale, entre guillemets. Et puis rendez-vous aussi le samedi soir sur HDR, si vous écoutez HDR là-bas, à Rouen, 22h minuit pour Soul Connection. Allez, ciao.
de devoir vous quitter, chers amis, je le regrette.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir.
Je n'ai rien d'autre à vous annoncer et par conséquent, je vous rends l'antenne.
Mesdames, messieurs, bonsoir.
Bonsoir.
Soul Connection. Soul Connection.
Soul Connection.
Un invité, une playlist, un mercredi soir sur deux, 20h, 21h, Tour de Piste est sur Principe Actif.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Tour de Piste. C'est sur les routes sinueuses et les chemins de traverse, jadis empruntés par les grandes figures du blues qu'on vous emmène ce soir, puisque j'ai le plaisir de recevoir Manuel Castillo, enfant du punk français. Ce fils d'immigrant espagnol en a gardé l'aspect brut, direct et sans fioritures pour le mettre au service de son projet solo sous le nom de Tio Manuel. Sur son 9e disque, le bien nommé The Track of the Magnificent Nine, il célèbre une nouvelle fois son amour pour l'Americana et les espaces désertiques. Il est à mes côtés ce soir pour répondre à mes questions sur son parcours d'homme et d'artiste, nous faire écouter des morceaux de son dernier album et quelques-uns de ses coups de cœur musicaux. Salut Manu.
Salut à toi Laurent.
Alors ton amour pour les sonorités américaines et les espaces désertiques dont est gorgé ce 9e album te vient d'où ?
Mes origines espagnoles viennent du désert espagnol de Tabernas. Mes grands-parents étaient originaires de ce coin-là et c'est dans cette région qu'ont été tournés pas mal de films dans les années 60, tous les western spaghetti qu'on a connus ont été tournés là-bas. Je pense que ça m'a mis une première couche par rapport au désert, par rapport à ces ambiances-là. Et ensuite, j'ai eu la chance de voyager un petit peu. Je suis allé dans les déserts américains, bien sûr, et puis j'ai travaillé dans ma jeunesse en Arabie Saoudite. Je suis allé au Chili, je suis allé au Brésil, je suis allé dans pas mal d'endroits et je pense que tous ces événements ont fait que j'ai toujours été attiré par ça et c'est ce qui m'a plu en fait, voilà quoi.
Alors le blues est ta musique de cœur, qu'est-ce qui te touche dans ce style ?
C'est curieux parce que la première musique que j'ai entendue, c'était pas du blues, c'était du flamenco puisque mon oncle était guitariste de flamenco et j'ai toujours trouvé une similitude entre ces styles, c'est-à-dire... Je trouve que le flamenco, c'est un blues ibérique et où on chante les malheurs de cœur, on chante les malheurs de vie, on chante pas mal de choses qui sont des choses que tu retrouves dans le blues. Et moi, j'ai commencé à écouter de la musique de la musique américaine, j'entends, quand j'avais une douzaine d'années. Et les premières musiques que j'ai écoutées, c'était des vieux rockers américains, à savoir Chuck Berry, des gens comme ça. Et forcément, ça m'a emmené vers le blues. Et je t'avoue que le blues, c'est un grand mot, mais je suis fan de rock'n'roll tout simplement. Et dans le rock'n'roll, il y a du blues. Dans le blues, il y a du rock'n'roll. Et j'ai écouté pas mal de styles, du blues, du rock, de la soul, du punk rock. Mais c'est vrai que je suis revenu à des choses plus musique, je dirais, populaire américaine. Et comme forcément le blues, comme un peu de country, comme du rock, toujours rock'n'roll, comme un tas de choses, quoi, mais qui viennent vraiment de là-bas, y compris des musiques hispaniques, qu'on trouve beaucoup en Amérique du Nord et en Amérique centrale et Amérique du Sud. Et je pense que tout ça, toute cette tambouille, tout ce mélange, avec mes attirances pour les espaces désertiques et les grandes villes aussi, enfin, il n'y a pas que le désert, mais c'est vrai que c'est important pour moi le désert. Mais je pense que tout ce mélange a fait que ça m'a inspiré pour la musique que j'essaie de faire correctement depuis des années, voilà.
Est-ce qu'il y avait une envie de replonger aux racines avec ce projet solo ?
Moi, je me pose pas ces questions-là. Je fais par rapport au cœur, par rapport aux événements et puis par rapport à ce que je ressens, que je ressens au moment présent, au moment de l'écriture, voilà.
Alors, t'es un enfant de la scène punk française, hein. Est-ce qu'il y a un héritage punk dans ta manière d'aborder la musique ?
Je pense. En tout cas au niveau de la liberté, parce que encore une fois je me mets pas de barrière et c'était l'esprit des punks anglais, ça, c'est à savoir on sait jouer trois accords et puis on les fait. Mais c'est un peu ce que j'ai gardé du punk, en tout cas dans l'esprit, ouais. Et peut-être au niveau rythmique sur certains morceaux un peu plus énergiques aussi, je pense, ouais. Je pense. Si tu prends l'exemple d'une personne qui m'a beaucoup marqué tout au long de ma vie et de ma carrière, c'est le regretté Joe Strummer de Clash.
Ouais, un grand personnage.
Lui, j'étais fan de Clash, j'ai vu Clash en concert, j'ai toujours pris des grandes claques quand je les voyais en concert, et je me suis intéressé à ce qu'il a fait après. Et en fait, je ferai un parallèle entre ce qu'il a fait après, Joe Strummer and the Mescaleros, et ce que je fais moi, c'est-à-dire qu'il est resté avec cet esprit punk, mais en faisant autre chose. Et quelque part, ce qu'il faisait avec les Mescaleros, c'était peut-être son blues à lui, tu vois. Et peut-être que ce que je fais avec Tio Manuel, bah, c'est mon blues à moi. Mais c'est très perso, le blues, en fait. C'est très large. Enfin, je pense.
Puisqu'on parlait de punk, je veux bien que tu nous parles d'ailleurs brièvement de ton passé punk et des groupes avec lesquels tu as joué.
Bah, le premier groupe avec lequel j'ai joué, c'est un groupe que j'ai formé avec un copain qui s'appelle Dilip, qui est devenu le batteur des Coronados, qui s'appelait les Spoons. On était de Champigny, on avait un local à Champigny, on était très jeunes et on était fans justement de The Clash, de Jam et d'un tas de trucs. Et on avait un groupe qui était très inspiré de tout ça. Ça, c'est le premier groupe punk dans lequel j'ai joué. Il se trouve qu'en faisant des concerts avec ce groupe-là, j'ai croisé la route de Wunderbar. Et Wunderbar cherchait un guitariste lead. Et moi, j'étais intéressé, donc j'ai sauté dans le bateau de Wunderbar et j'y suis resté un moment. Et puis, avec Wunderbar, j'ai croisé d'autres gens. J'ai croisé Oberkamp, j'ai croisé la Souris des Dinguées, j'ai croisé les gens qui faisaient de la musique punk à Paris, quoi. Et puis, à partir de là, on a fait pas mal de concerts, les uns les autres. J'ai eu la chance de jouer un petit peu avec Joël d'Oberkamp, j'ai eu la chance de jouer avec Ty Luc de la Souris, j'ai eu la chance de jouer avec la Souris des Dinguées. Et que ce soit avec Wunderbar, la Souris ou... surtout Wunderbar et la Souris ou Ty Luc, on a fait des festivals et on a croisé des gens qu'on écoutait quand on était jeune. Ça, c'était plutôt sympa. Quand tu joues avec les gens que tu écoutais sur disque quand tu avais 16, 17, 18 ans et que tu te retrouves sur le même plateau et qui te disent que ce que tu as fait, c'est bien, forcément, ça fait plaisir.
Voilà. Tu m'étonnes. On va écouter donc quelques extraits, trois pour être plus précis, de ton dernier album. Quelle voix, toi, tu as souhaité prendre pour ce 9e disque?
Je sais pas. En fait, ça s'est fait bizarrement parce que j'ai quitté Paris, donc je suis arrivé ici en Bretagne et je me suis mis à errer sur le littoral. Tu vois, tous les jours, je me balade, je vais sur la côte et je pensais plus du tout à l'écriture, plus du tout aux nouveaux morceaux, plus du tout à la musique. Et je profitais de ma nouvelle vie vraiment en pleine nature avec la mer, etc. Et j'ai un copain de radio qui est venu me voir par le plus grand des hasards et comme j'ai un home studio, que j'ai tout mon matériel chez moi, il était persuadé que j'avais composé plein de choses depuis que j'étais ici et que forcément j'avais des choses à lui faire écouter. Il se trouve que j'avais rien fait du tout. Et il m'a dit, mais c'est pas possible. Enfin, t'as du temps, t'es dans un endroit magnifique, t'as que ça à faire pratiquement. Et je me suis dit, il a raison. Et en fait, c'est sûrement dans la voix de... Peut-être d'un réveil artistique ou d'une prise de conscience qu'effectivement le temps passe vite et que j'avais encore des choses à dire. Et c'est dans cet esprit-là que j'ai commencé à écrire. Et le premier morceau que j'ai composé, c'est The Morland, qui parle de la lande ici. Mais c'est vrai que c'est grâce à ce copain de radio qui m'a un peu réveillé, en fait, parce que j'étais parti pour me laisser vivre, en fait. Voilà.
Alors la première chanson, hein, celle qui va ouvrir le bal de la programmation musicale, elle s'appelle Once Upon a Time, c'est un clin d'œil évident, hein, ce titre au cinéma de genre. Il y a des thèmes et des images qui nourrissent particulièrement ta musique?
J'ai toujours eu ce goût de faire des choses musicalement un peu Tex-Mex, tu vois. J'aime vraiment la frontière US-Mexique et j'y suis allé pas mal de fois. Et j'avais envie de garder cette touche, pas tout le temps, mais par clin d'œil sur l'album. Et Once Upon a Time, j'avais le thème, j'avais la structure du morceau. Et c'est le dernier titre que j'ai composé pour l'album. Et j'étais à court d'idées pour le texte. Et ma copine m'avait offert un bouquin qui s'appelle The Book of the Dead, Tijuana Book of the Dead, d'un auteur que j'ai lu qui est Luis Alberto Urrea. Et elle me dit, mais jette un œil là-dedans, tu vas trouver des idées. Effectivement, j'ai trouvé des idées, et j'ai trouvé des idées qui ont fait la chanson. Et en fait, c'est un recueil de poèmes, mais inaboutis, c'est assez intéressant. C'est des bouts, ils jettent des bouts de poèmes comme ça, complètement inaboutis, et t'as tout l'imaginaire Tex-Mex, mexicain, mais aussi américain, avec la légende de Santa Muerte, avec la légende, avec les, forcément les cactus, le désert, les cailloux, les serpents à sonnette, la femme, comment dire, la sorcière, femme un peu medicine woman, tu vois, qui est en train de bricoler des trucs pour jeter des sorts. Enfin, c'est vraiment dans l'imaginaire Tex-Mex. Et du coup, j'ai trouvé le morceau. Et la Once Upon a Time, c'est donc très inspiré de Luis Alberto Urrea. Et j'invite les gens qui nous écoutent à le lire parce que c'est vachement intéressant. Et, enfin, moi, j'aime beaucoup ça. Ça parle vraiment de tout cet esprit mexicain et américain à la fois, quoi. C'est des choses que j'adore personnellement. Voilà.
l'instant, c'était Once Upon a Time de Thio Manuel, qui est la voix invitée de cette émission Tour de Piste. On parlait de ta culture musicale tout à l'heure. De quels albums des autres tu t'es nourri pendant la période de gestation et d'accouchement de ce 9e album?
Alors, j'avais un album de Tony Joe White qu'on m'avait offert, un vieil album de Tony Joe White qui datait de début 70, peut-être 1970. Alors, cet album a pas mal tourné. Tom Petty et les Heartbreakers aussi, j'ai pas mal écouté ça. Des vieux rockers de l'époque, Sun, tu sais, Carl Perkins, des gens comme ça. Qu'est-ce que j'ai écouté d'autre? Je sais plus, pas mal de choses, mais globalement, c'était à peu près ça, quoi, ouais. Et ouais, non, c'était à peu près ça. Et puis si, des songwriters comme Townes Van Zandt ou des vieux Dylan ou des trucs comme ça aussi, ouais, bien sûr. Mais c'est à peu près le mix, ouais. J'ai cité Tony Joe White, mais j'avais bien craqué sur une ambiance d'un de ses albums. Et j'étais pas mal là-dedans. Et j'essayais de, bah, pas de refaire la même chose, mais de trouver une ambiance à moi qui puisse accrocher les gens comme moi j'avais été accroché avec ce disque-là, quoi. Après, c'est marrant parce que j'ai vraiment une grosse banque musicale dans ma tête, et je passe de, tu vois, Townes Van Zandt, c'est très très calme, mais c'est très beau, c'est triste, et il a eu vraiment une vie compliquée. Et puis à côté de ça, je vais écouter un truc bien plus péchu après, et ça me pose pas de soucis, et j'essaie de mélanger tout ça et de ressortir des titres. Alors il y a des titres calmes, des titres un peu plus rythmés, il y a des titres très hispaniques, c'est à peu près ce que j'ai écouté. Et puis deux frères latinos que j'ai choisi, je crois, dans la playlist
on va écouter tout à l'heure. Ouais
les frères Rodriguez,
c'est
les frères Rodriguez.
C'est pas Rodriguez,
Gutiérrez.
C'est ça, Gutiérrez.
Ouais, Gutiérrez. Je les écoute beaucoup, et la première fois que je les ai entendus, ça m'a rappelé des sons que je faisais, des morceaux que je faisais au début des années 2000, où j'étais dans des sons avec la slide un peu comme ça, très, et justement je trouve que c'est des ambiances très désertiques. Mais tu vois, en mélangeant tout ça, mais c'est vrai que les disques que j'ai nommés là, que j'ai cités là, c'est vraiment ce que j'ai écouté en boucle pendant que j'étais sur la compo de cet album là, voilà.
Alors tu vas nous démêler à ta discothèque justement avec Cecil Brown de Hank Williams Free, une chanson du petit-fils de l'un des pères fondateurs, ouais, de la musique américaine. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur, à la fois sur Hank Williams et sur ce choix de titre, Cecil Brown?
Hank Williams, c'est un mythe, c'est un mythe. Alors moi je connais les trois, je connais forcément Hank Williams le fils que j'aime bien mais moins. Et j'ai trouvé que le petit-fils avait un son, il a un truc bad boy, spy, je crois qu'il est de West Virginia, qui est vraiment un état sinistré américain, et où c'est vraiment la misère, les white trash, les petits blancs. Et moi je me suis baladé là-bas aussi, c'est vrai que c'est un drôle d'endroit, enfin c'est des drôles de coins. Et je trouve qu'il retranscrit vraiment ça dans sa musique. Il triche pas, quoi. C'est cash. Enfin, moi, je trouve. Hein. Et c'est ce qui m'a accroché chez lui. Et j'ai deux albums d'Hank Williams, The Third. Celui que j'ai choisi, il est extrait de Love Sick Broken Drifting. Honnêtement, l'album est excellent. Il a repris un morceau de Springsteen dessus, Atlantic City. Si tu connais pas bien le morceau, tu reconnais vraiment pas, quoi. Enfin, cet album, je le conseille, il est terrible. Et j'en ai un deuxième qui est vachement bien aussi, qui s'appelle Straight to Hell. Et enfin, les deux sont top. Et forcément, j'en ai écouté d'autres que j'ai pas, qui sont très très bien. Enfin, moi, je conseille pour ce genre de musique. Et puis encore une fois, il est cash, il triche pas. Il me rappelle son grand-père, en fait, qui était quand même un personnage, et tu sens que le gars, bah, il met ses tripes, quoi, il y va, quoi. Et c'est ce qui me plaît, et je trouve que c'est le morceau là, c'est ce brand, il est bien, mais il y en a d'autres, hein. Je conseille tout l'album, en fait. Mais allons-y pour ce titre, perso, j'aime beaucoup.